Chapitre 61. Non sans serrer les dents, Richard emboîta le pas à Anis Arc, qui se dirigea vers une série de grandes tours rocheuses à bonne distance de là. Sortant de l'ombre, les Shuntuk, à la peau enduite d'une substance blanche, sortirent des ombres pour marcher sur les flancs du sourcier et derrière lui. Un peuple impressionnant, vraiment. Hommes comme femmes, tous ces demi-humains avaient le torse nu. Autour de la taille, ils portaient une sorte de ceinture de perles, de dents et d'os qui leur tenaient lieu de pagne. Des bracelets composés des mêmes éléments ornaient leurs poignets et leurs avant-bras. Tous ces dévoreurs d'âmes s'enduisaient la peau d'une substance blanche, à base de cendre ou de craie, supposa Richard, qui leur tenait lieu de vêtements. Presque tous, les femmes comprises, avaient le crâne rasé. Quelques-uns, là encore avec des femmes dans le lot, arboraient sur le sommet du crâne un toupet tenu à la base par un lien de dents et d'os. L'indication d'un grade? Et une simple coquetterie? Un moyen de paraître plus intimidant? Richard n'aurait su le dire. Avec leur peau d'un blanc crayeux, ces tueurs impitoyables à l'allure pourtant humaine faisaient plutôt penser à une meute de bêtes fauves. Rivant sur Richard, leurs yeux entourés de cercles noirs sans doute dessinés à la suie, tous les Shuntuk semblaient se régaler d'avance de sa chair et de son sang. Certains ayant peint sur leurs lèvres un sourire de tête de mort, les séides d'Anis Arc ressemblaient davantage à des cadavres qu'à des gens en chair et en os. Comme s'ils désiraient mettre en avant la part d'eux-mêmes qui n'était plus vivante. Quoi de plus logique, sachant qu'ils n'étaient plus vraiment en vie? Résidents du troisième royaume, un lieu qui était en somme à cheval entre le monde des vivants et celui des morts, ces tueurs n'avaient pas d'âme, aucun lien avec la grâce, et ils ne possédaient plus la précieuse étincelle de création qui aurait dû les suivre durant toute leur vie et les accompagner après leur fin. Pour l'heure, ils existaient dans un royaume, le troisième, qui n'était ni celui de la vie, ni celui de la mort. Et Richard, désormais, était des leurs. Comme eux, il appartenait à deux mondes en même temps, et à aucun en particulier. Se retrouver au milieu d'un tel groupe de demi-humains avait de quoi glacer les sangs. Si Anis Arc les y autorisait, ces tueurs se jetteraient sur lui pour se repaître de sa chair, boire son sang et tenter, du moins le croyait-il, de lui voler son âme. Alors que la colonne s'enfonçait dans un champ de flèches rocheuses, le jour s'assombrit encore et de la fumée commença à dériver dans l'air. Empestant le soufre, ces volutes devinrent bientôt des nappes qui occultaient la pointe des plus hautes formations rocheuses. Durant sa longue marche au milieu d'une forêt de pierres, la fumée noire tenant lieu de frondaison, Richard repéra dans le sol des fissures d'où sortaient les émanations méphitiques. D'abord minuscules, ces fractures dans le sol rocheux devinrent des crevasses souvent assez larges pour que le sourcier doive les enjamber en traversant un rideau de brume noire. Richard remarqua aussi des ouvertures dans les murailles grises qui délimitaient le canyon. Beaucoup semblaient peu profondes, mais certaines, il aurait parié, s'enfonçaient dans les entrailles de la falaise. La fumée de plus en plus acide qui montait des crevasses fit picoter les yeux du sourcier. Après un moment de marche, les flèches rocheuses commencèrent à ressembler à des fagots géants de roseaux qui se seraient pétrifiés. Chaque tige ayant une longueur différente, le sommet de ces immenses blocs était déchiqueté. Des éclats de pierre de toutes les tailles sur le sol témoignaient qu'il y avait eu un temps très lointain où tous les roseaux faisaient exactement la même taille. Par endroits, certaines tours de pierre s'étaient écroulées, formant un obstacle naturel difficile à contourner. Dans le lointain, sur les côtés, les colonnes se fondaient les unes dans les autres pour devenir de hautes collines minérales. Alors qu'il avançait dans le dédale de flèches rocheuses, suivant ses guides et encadré par son escorte, Richard remarqua d'autres Shuntuk tapis dans des grottes ou derrière de gros rochers. Tous le regardaient comme s'il allait bientôt figurer à leur menu. Un peu plus loin, dans ce décor de cauchemar, la nature de la roche changea. Au milieu des flèches, Richard vit plusieurs plaques rocheuses qui semblaient avoir jadis coulé jusque-là avant de se pétrifier. Alors que le jour s'assombrissait encore, ce terrain-là se révéla constellé de crevasses. Les coulées minérales, elles aussi, portaient une multitude de trous de toutes les tailles et toutes les profondeurs possibles. Par endroits, deux masses rocheuses pétrifiées, bien plus hautes que toutes les autres, se rejoignaient en hauteur pour former des arches et des ponts naturels. Bientôt, il y en eut de plus en plus, le canyon ressemblant à une sorte de tunnel à la voûte irrégulière. À certains endroits, Richard eut carrément l'impression de traverser une grande caverne. Comme si ce paysage de fin du monde l'avalait peu à peu, tel un prédateur géant. Des Shuntuks sortirent par centaines des ombres pour regarder passer la colonne ou se joindre à l'escorte du sourcier. De plus en plus, ce qui avait été un canyon se mettait à ressembler à un réseau géant de grottes exposées par endroits à l'air libre, consécutivement à l'inlassable travail de sape du temps et des intempéries. Les passages à ciel ouvert devenant de plus en plus rares, il fallut recourir à des torches pour éclairer le chemin. Au bout d'un moment, la colonne progressa dans un environnement totalement clos. Sortant d'une multitude de grottes et de tunnels, des Shuntuks porteurs de torches supplémentaires vinrent se joindre à l'escorte du sourcier. En passant devant des tunnels, Richard remarqua des silhouettes silencieuses qui montaient la garde. Pas des Shuntuks, mais des cadavres ranimés. Parfois frappés d'atroces mutilations qui ne semblaient pas les gêner, ces morts revenus de la tombe posaient sur la colonne des yeux rouges brillants. Après un moment, Richard renonça à mémoriser le chemin qui lui permettrait éventuellement de retrouver la sortie de ce labyrinthe. Considérant le nombre de tunnels latéraux et de grottes, cette tâche dépassait les capacités d'un cerveau humain. De plus, le sourcier doutait de plus en plus d'avoir un jour besoin de se mettre en quête d'une issue. La colonne passa devant une série de grottes fermées par des planches, comme pour interdire le passage à quelqu'un. Un peu plus loin, les portes se révélèrent être des fragments de voiles, comme si la préoccupation ici avait été d'empêcher les gens de sortir. Apercevant une silhouette derrière un rideau de lumière verte, Richard s'arrêta pour mieux l'étudier. Très vite, il conclut que ce n'était pas un des esprits qui rôdait dans le royaume des morts. Sans agiter frénétiquement les bras ni gémir, cet être se déplaçait comme l'aurait fait un vivant. Un homme ou une femme, piégé du mauvais côté du voile, comprit Richard. Apparemment, le rideau de lumière verte pouvait faire office de porte de prison. Avec son agiel, la mort de Sith tapa doucement sur l'épaule de Richard. Surpris par la souffrance, il porta une main à la zone endolorie et la massa. À cause de son expérience passée, Richard ne douta pas un instant que Vika n'avait pas voulu le torturer, mais seulement l'aiguillonner, sinon il aurait été en train de se tordre de douleur sur le sol. À un moment, Anis Ark s'arrêta et se retourna pour regarder Richard, Vika et les demi-humains qui les entouraient. Alors que le sourcier s'immobilisait aussi, le Seigneur fit un signe à la mort de Sith qui saisit aussitôt ce qu'il voulait. « Seigneur Al, dit-elle. « Donnez-moi votre épée. Ici, vous n'en aurez pas besoin. » Se séparer de son âme révulsait Richard. Mais qu'aurait-il pu faire d'autre? Dégainer sa lame et combattre? Contre une telle masse de Shuntuks? Bien entendu, son objectif aurait été Anis Ark, mais avec le pouvoir dont il disposait, l'homme couvert de tatouages n'aurait eu aucun mal à se défendre. De plus, Richard avait par le passé commis l'erreur de vouloir utiliser son arme contre une mort de Sith. Ayant payé très cher sa bévue, il n'avait aucune intention de la répéter. Retirant son baudrier, il le tendit à Vika qui s'empara de l'épée de vérité. La mort de Sith ne cacha pas sa surprise.
« Quelle obéissance, Seigneur Ral! Si je ne savais pas que c'était impossible, je jurerais que vous avez déjà été brisé par une mort de Sith. »
Anis Ark fit un geste à l'intention d'un petit groupe de Shuntuks. Un des sauvages approcha, poussa Richard sans ménagement et le propulsa vers un des nombreux tunnels sur la gauche. Dès que le sourcier se fut engagé dans le passage, Anis Ark leva une main avec une étrange grâce nonchalante. Aussitôt, un fragment de voile vint obstruer la gueule du tunnel.